Lecture des lettres des pères du désert, une émission proposée par Hélène.
Voici depuis plusieurs mois maintenant que nous vous proposons de partager avec nous cette œuvre d'une immense richesse qui est celle des lettres des pères du désert, les premiers pères de l'Église, qui vécurent du 3e siècle à nos jours, plus spécialement au Moyen-Orient et en Russie. Aujourd'hui, poursuivons avec Jean Cassien, qui est plus particulièrement orienté sur l'expérience du combat spirituel, celui qui nous permet de quitter le vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Aujourd'hui, nous continuons les conférences de Saint Jean Cassien et nous allons aborder comment Satan entre dans l'âme. Les démons ne peuvent s'emparer de l'esprit ni du corps de personne. Ils n'ont point la facilité de se ruer à fond dans une âme, à moins de l'avoir destituée d'abord de toutes les saintes pensées et dépouillée de la contemplation spirituelle. Il faut savoir toutefois que les esprits immondes obéissent à l'homme de deux manières. Ou c'est la sainteté qui les subjugue, par la grâce et la vertu divine, ou ils se laissent gagner par les sacrifices des impies et de certaines incantations, et font preuve à leur endroit de la complaisance qu'on a pour des intimes. Et c'est ce qui faisait illusion aux pharisiens, lorsqu'ils croyaient que notre Seigneur et Sauveur, lui aussi commandait aux démons par de tels artifices, et qu'ils s'écriaient « C'est par Belzébuth, prince des démons, qu'il chasse les démons !» Telle était en effet la coutume, à eux bien connue, de leurs mages et de leurs sorciers, d'invoquer le nom de Belzébuth et de lui offrir les sacrifices qu'ils savaient lui être agréables, afin d'entrer dans son intimité et d'avoir puissance sur les démons à lui soumis. La différence qui sépare les parfaits des imparfaits, c'est que chez les premiers, la charité profondément enracinée et parvenu, pour ainsi dire, à un plus mûr développement, possède aussi une plus inébranlable constance et les maintient plus fermement, à la fois et plus aisément dans la sainteté. Tandis que moins fortement établi chez les seconds, chez les imparfaits, et plus facile à se refroidir, elle les laisse se prendre plus vite et plus fréquemment au filet du péché. Voyons maintenant quel est le but du moine. Toute la fin du moine et la perfection du cœur consistent en une persévérance ininterrompue de prière. Autant qu'il est donné à la fragilité humaine, c'est un effort vers l'immobile tranquillité d'âme et une pureté perpétuelle. Et telle est la raison qui nous fait affronter le labeur corporel et rechercher de toute manière la contrition du cœur, avec une constance que rien ne lasse. Aussi bien ce sont là deux choses unies d'un lien réciproque et indissoluble. Tout l'édifice des vertus n'a qu'un but, qui est d'atteindre à la perfection de la prière. Mais sans ce couronnement qui en assemble les diverses parties, de manière à en former un tout qui se tienne, il n'aura ni solidité ni durée. Sans les vertus, en effet, ni ne s'acquiert, ni ne se consomme la constante tranquillité de prière dont nous parlons. Mais en revanche, les vertus qui lui servent d'assises n'arriveront pas sans elles à leur perfection. C'est dire qu'il serait chimérique de prétendre d'emblée et sans préliminaire traiter convenablement de la prière et la pénétrer dans son plus haut degré qui suppose la pratique de toutes les vertus. Force nous est auparavant d'examiner par ordre les obstacles à faire disparaître et les préparatifs qui s'imposent pour obtenir le succès. Instruit par la parabole de l'Évangile, à nous de supputer d'abord et de rassembler diligemment tout ce qui intéresse la construction de cette haute tour spirituelle. Encore les matériaux ainsi préparés ne serviraient-ils de rien ? Impuissant qu'il serait à soutenir le fait sublime de la perfection sans un travail préparatoire, qui consiste à nous défaire de tous nos vices et à débarrasser notre âme des débris et des ruines des passions, puis à jeter sur la terre vive, comme on dit, et solide de notre cœur, ou plutôt sur la pierre dont parle l'Évangile, les très fermes fondements de la simplicité et de l'humilité, où cette tour qu'il s'agit d'élever avec nos vertus puisse s'asseoir inébranlablement et sûre de sa propre solidité, se dresser jusqu'au plus haut des cieux. Si elle s'appuie sur de tels fondements, et que vienne le déluge des passions, viennent les torrents furieux des persécutions, qui, comme un bélier, battront les murailles, que les puissances adverses, tel un ouragan sauvage, se ruent et se déchaînent, elle ne croulera pas. Que dis-je ? Le choc même ne réussira point à l'ébranler.
Pour acquérir la ferveur et la pureté de la prière.
Pour avoir la ferveur et la pureté qu'elle doit, la prière réclame une entière fidélité sur les points suivants. Et d'abord, la suppression complète de toute sollicitude à l'endroit de la chair. Renoncer également aux détractions, aux paroles vaines, bavardages et bouffonneries. Avant tout, supprimer à fond le trouble de la colère ou de la tristesse, anéantir radicalement le foyer pernicieux de la concupiscence charnelle et de l'amour de l'argent. Après avoir entièrement retranché et détruit ces vices et leurs pareils, qui ne peuvent échapper même au regard humain, après avoir procédé à la purification que nous venons de dire et qui s'achève en la pureté et simplicité de l'innocence, jeter premièrement les fondements inébranlables d'une humilité profonde, capable de soutenir la tour qui doit porter son faîte jusque dans les cieux, puis y poser l'édifice spirituel des vertus. Interdire enfin à son âme tout échapper en divagation et pensée volage, afin qu'elle commence ainsi de s'élever peu à peu jusqu'à la contemplation de Dieu et l'intuition des réalités spirituelles. C'est qu'en effet, tout ce que nous avons dans l'esprit avant l'heure de l'oraison nous est fatalement représenté par la mémoire, tandis que nous prions. Tel nous voulons être dans la prière, tel il nous faut rendre auparavant. C'est de l'état qui précède que dépendent alors les dispositions de l'âme. Nous nous prosternons pour prier. Actes, paroles et sentiments renaissent identiques au regard de notre imagination. Ils suscitent, suivant ce qu'ils étaient avant la prière, ou la colère, ou la tristesse. Ou bien nous revenons sur nos convoitises et nos affaires. Nous éclatons d'un rire sot, j'ai honte de le dire, au souvenir plaisant de quelques paroles ou actions bouffonnes. Notre pensée retourne d'un vol capricieux à son vagabondage. Toutes idées étrangères dont nous ne voulons pas être importunées durant la prière doivent donc être bannies avec un soin empressé du sanctuaire de notre cœur dans le temps qui la précède. Nous pourrons suivre alors le précepte de l'apôtre, prier sans relâche et, en tout lieu, lever au ciel des mains pures, sans colère ni contestation. Mais nous en demeurons à jamais incapables si notre âme ne se purifie pas de toute contagion du vice et ne s'adonne à la vertu comme à son bien propre pour se nourrir de la contemplation continuelle du Dieu Tout-Puissant. L'âme pourrait avec assez d'apparence se comparer à un fin duvet ou à une plume légère. Si nulle humidité ne les souille et pénètre, la mobilité de leur substance fait qu'au moindre souffle, ils s'élèvent, comme naturellement, vers les hauteurs de l'air. Qu'ils soient au contraire arrosés ou imprégnés de quelque liquide, et les voilà tout alourdis. Adieu les vols aériens. Où leur mobilité naturelle ne saurait désormais les ravir, le poids du liquide absorbé les abîme jusqu'à la terre. Ainsi en va-t-il de notre âme. Si les vices et les soins du monde ne viennent l'appesantir, ou la passion coupable la souiller, soulevée en quelque sorte par le privilège inné de sa pureté, au plus léger souffle de la méditation spirituelle, elle s'élèvera vers les hauteurs et, désertant les choses d'ici-bas, passera au céleste et invisible. C'est donc bien proprement à nous que s'adresse l'avertissement du Seigneur dans l'Évangile. Prenez garde que vos cœurs ne s'appesantissent dans la crapule et l'ivresse et les soins de la vie présente. Voulons-nous que nos prières pénètrent jusqu'aux cieux et au-delà des cieux? Veillons à affranchir notre âme de tout vice terrestre. Purifions-la de la lie des passions, afin de la rendre à sa naturelle subtilité. Alors, sa prière, libre du poids mort des vices, montera jusqu'à Dieu.
les différents degrés de pureté de la prière.
Je tiens pour impossible de distinguer toutes les formes de prière. À moins d'une pureté de cœur tout à fait singulière et de lumière extraordinaire de l'Esprit Saint. Leur nombre est aussi grand qu'il peut se rencontrer dans une âme, ou plutôt dans toutes les âmes, d'états et de dispositions différentes. Je sais combien mon insensibilité de cœur me rend incapable de les apercevoir toutes. J'essaierai cependant de les décrire tant bien que mal, dans la mesure que me permettra ma médiocre expérience. La prière se modifie à tout instant selon le degré de pureté où l'âme est parvenue, suivant aussi sa disposition actuelle, que celle-ci soit due à des influences étrangères ou spontanées. Et il est bien certain que pour personne, elle ne demeure en tout temps identique à elle-même. On prie différemment, suivant que l'on a le cœur léger, ou alors dit de tristesse et de désespérance. Dans l'enivrement de la vie surnaturelle et la dépression des tentations violentes. Lorsqu'on implore le pardon de ses fautes, ou que l'on demande une grâce, une vertu, la guérison d'un vice, dans la componction qu'inspire la pensée de l'enfer et la crainte du jugement. Et lorsqu'on brûle du désir et de l'espérance des biens futurs, parmi l'adversité et le péril, ou dans la paix et la sécurité. Si l'on se sent inondé de lumière à la révélation des mystères du ciel, ou alors paralysé par la stérilité, dans la vertu et la sécheresse dans les pensées. L'Ecclésiaste dit « Je ferai les oraisons promises au Seigneur. » Voici quant à nous comment nous accomplirons ce précepte. Nous promettons, lorsque nous renonçons au monde, et nous engageons solennellement à mourir à tous ses actes et à son style de vie pour servir le Seigneur de toute l'ardeur de notre âme. Nous promettons, lorsque nous nous engageons, à mépriser la gloire du siècle et à fouler aux pieds les richesses de la terre, afin de nous attacher au Seigneur, contrits de cœur et pauvres d'esprit. Nous promettons, lorsque nous vouons pour jamais la chasteté parfaite du corps et une patience inaltérable, et que nous prenons l'engagement d'arracher complètement de notre cœur les racines de la colère et de cette tristesse qui donne la mort. Lorsque l'âme repasse par les souvenirs des bienfaits passés de Dieu et considère ceux dont il la comble dans le présent, ou lorsqu'elle porte son regard vers l'avenir sur l'infinie récompense qu'il prépare à ceux qu'il aime, elle lui rend grâce parmi d'indicibles transports. Même il arrive parfois que cette application d'esprit l'invite à prier avec une plus grande effusion. Car à contempler d'un regard très pur les récompenses réservées aux saints dans la vie future, elle se sent pressée de se répandre devant Dieu en d'ineffables actions de grâce, dans le sentiment d'une joie sans mesure. Le Seigneur fait une prière lorsqu'il demande « Père, ce que vous m'avez donné, je veux que là où je suis, il soit avec moi, afin qu'il voie la gloire que vous m'avez donnée. » Et encore, une autre prière. « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le Seigneur dit encore, comme prière à son Père, « Oui, Père, je vous bénis. Je vous rends grâce de ce que vous m'avez exaucé. Pour moi, je savais que vous m'exaucez toujours. » Ces différents modes de prière seront suivis d'un état plus sublime encore et d'une plus transcendante élévation. C'est un regard sur Dieu seul, un grand feu d'amour. L'âme s'y fond et s'abîme en la sainte dilection et s'entretient avec Dieu comme avec son propre Père, très familièrement, dans une tendresse de piété toute particulière. Dans le Notre Père, nous disons « Notre Père qui êtes aux cieux ». Le temps de notre vie n'est plus dès lors qu'un exil, et cette terre une terre étrangère qui nous sépare de notre Père. Fuyons-la et de toute l'ardeur de nos désirs. Hâtons-nous vers la région où nous proclamons que réside notre Père. Que rien dans notre conduite, en nous rendant indignes de la profession que nous faisons d'être ses enfants et de l'honneur d'une telle adoption, que rien ne nous prive comme des fils dégénérés de son héritage et nous fasse encourir sa colère et les sévérités de sa justice. Lorsque le diable, une fois chassé de notre cœur avec les vices dont il l'infectait et son empire évanoui, alors Dieu entre chez nous en souverain, en même temps que s'y répand la bonne odeur des vertus. La fornication vaincue, c'est la chasteté qui règne dans notre âme. La fureur surmontée, la tranquillité. La superbe foulée aux pieds, c'est l'humilité qui règne. Une troisième demande des fils est celle-ci. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Souhaitez que la terre mérite d'être égalée au ciel. On ne saurait plus haut porter sa prière. De dire en effet que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, n'est-ce point autant que si l'on demandait que les hommes soient semblables aux anges ? Et que comme ces esprits bienheureux font au ciel la volonté divine, ainsi les hommes l'accomplissent tous sur la terre, et non point la leur. À notre prochain rendez-vous, nous poursuivrons avec saint Jean Cassien notre méditation sur le Notre Père.
C'était les lectures des Pères du désert, une émission proposée par Hélène.